الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد Nous sommes le 17 du mois Dhul-Qi'da de l'an 1445 de l'égir du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, correspondant au 25 mai 2024, toujours dans cette série d'interventions intitulée « Prépare ton cœur au voyage de la vie, le pèlerinage à la Mecque ». Ce grand voyage qui est le voyage de la vie qui nécessite que le cœur du pèlerin soit prêt spirituellement afin de savourer chacun des moments, chacun des instants, chacun des rites du pèlerinage derrière lesquels se trouvent des sagesses à comprendre et à vivre. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, nous allons parler de plusieurs points, le premier étant le sujet du fameux At-Tawaf, At-Tawaf bil Bayt al-Atiq, la circumambulation autour de la Kaaba. Le fait de tourner autour de la Kaaba, cette énorme, cette grande adoration. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, comme nous le décrit le compagnon Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma. Le compagnon nous dit, فَبَدَأَ بِالْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ وَفَاضَتْ عَيْنَاهُ بِالْبُكَاءِ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a débuté cette circumambulation. Il a débuté le tawaf au niveau de la pierre noire qu'il a touchée. Puis, ses deux yeux se sont inondés de larmes. Allahu Akbar. Il en est ainsi car en réalité, cette maison, comme nous l'avions dit, est la maison d'Allahu Azza wa Jal. Par celle-ci, est passé notamment le prophète Ibrahim alayhi salam, qui a édifié cette construction et qui l'a élevé, aidé par son fils Ismaïl alayhi salam, invoquant Allah Azza wa Jal de guider les cœurs des gens vers cet endroit et de faire que les cœurs des musulmans convergent vers la Kaaba, chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a exaucé, si bien qu'aujourd'hui, vous voyez un nombre de gens étonnants arrivant de toute contrée, de tout endroit, comme Allah subhanahu wa ta'ala en avait informé le prophète Ibrahim alayhi salam lorsqu'il lui avait ordonné de passer l'appel aux gens de venir accomplir le pèlerinage. يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Les gens viendront à pied et sur chaque monture, et ils viendront de tout pays éloigné. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et il est bon de méditer lorsque tu fais le tawaf sur la diversité des gens, des langues, sur la diversité des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, pourtant toutes venues dans un seul et même endroit. Tu entendras des gens invoquer Allah en turc, d'autres invoquer Allah dans plusieurs langues africaines, d'autres dans des langues arabes, certains dans d'autres langues. Ils souhaitent tous la même chose. Ils tournent tous autour de la même maison. Ils sont tous conscients qu'ils sont des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce ressenti fait augmenter dans le cœur du croyant l'amour qu'il porte à son Seigneur subhanahu wa ta'ala, sa vénération, la reconnaissance de sa grandeur. Ainsi, il se reconnaîtra lui, le serviteur, comme étant faible, et il frappera à la porte de son Créateur et de son Seigneur, plein d'espoir en Allah. Il viendra avec un objectif. Je suis venu chercher le pardon d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Je n'ai pas le temps de me préoccuper par autre chose que mon objectif. Et je ne dois pas laisser Iblis, al-Shaytan, me tromper et m'égarer ou alors me distraire ou m'occuper par quelque chose d'autre que cet objectif de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, surtout quand j'apprends les récompenses et les mérites du tawaf qui nous ont été enseignés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chaque pas que tu fais est un péché qui disparaît et une bonne action qui t'est ajoutée. Surtout quand tu apprends, encore une fois, ce que nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors du pèlerinage, lors du tawaf, tawaf al-ifada. C'est un des tawaf du pèlerinage qui est il a une très grande importance. Il y a un hadith jugé authentique par l'imam al-Albani, rahimahullah ta'ala, peut-être qu'on aura l'occasion de le citer entièrement, dans lequel le prophète alayhi salatu wa salam dit « Wa amma tawafuka bil bayt fa innaka tatufu wa la dhanba lak » Quant à ton tawaf autour de la maison sacrée, alors tu l'accompliras n'ayant plus aucun péché. Plus loin, il nous enseigne même qu'un ange, un malek, est envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala. Il pose sa main entre tes deux épaules sur ton dos et te dit, bien que tu ne l'entendes pas, que tous tes péchés sont pardonnés. Ya subhanallah. Chers frères, chères sœurs, comment après cela on peut accomplir un tawaf, le téléphone à la main, en passant chaque instant à se filmer, se prendre en photo, ou alors en passant des appels téléphoniques à des amis ou à des proches? Quelle privation grandiose, quelle grande privation que de se comporter de cette façon, alors que la Kaaba est la maison sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala, et en accomplissant le tawaf autour d'elle, vous êtes en train de ressembler aux anges d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui ont eux aussi une maison autour de laquelle ils tournent, et dans laquelle, comme nous l'enseigne le prophète alayhi salatu wa salam, entre 70 000 anges chaque jour, puis lorsqu'ils quittent cette maison, après y avoir adoré Allah azza wa jal, ils ne reviennent plus. Cela vous donne une idée du grand nombre d'anges créés par Allah, qui adorent tous Allah, et ils viennent tourner autour de leur maison à eux aussi. Et ils font le tawaf en adorant Allah Azza wa Jal. Ainsi, le croyant, lorsqu'il prend conscience de tout cela, il se rapproche de plus en plus de la Kaaba dans son cheminement depuis le Miqat vers la Mecque. Puis lorsqu'il arrive enfin devant la Kaaba, il arrive avec un cœur fragmenté, un esprit plein d'humilité et des larmes qui coulent. Car il partage plusieurs sentiments. Il se dit « Oh combien Allah m'a fait don de ses faveurs en m'amenant jusqu'ici, alors que beaucoup n'ont pas pu y arriver. » Il se dit aussi « Si Allah m'a amené jusqu'ici, Inch'Allah, par la bonne opinion que j'ai de lui, ce n'est que pour m'exaucer et me donner ce que je lui demanderai. » Il se dit aussi, si Allah m'a comblé de ses bienfaits en m'amenant ici, comment ai-je pu lui désobéir toutes ces années-là? Il est pris par crainte d'Allah, par regret de ses péchés. Son cœur, avant ses yeux, pleure et il pense à son lien avec Allah, et il se sent de plus en plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ressent alors un paradis que personne d'autre que le croyant ne peut avoir et ne peut ressentir dans son cœur. Un des pieux prédécesseurs a dit « Masakinu ahlu hadhihi dunya kharaju minha wa lam yadhuqu atyaba ma fiha » Pauvres sont les gens attachés à cette vie d'ici-bas. Ils ont quitté ce bas monde sans avoir goûté à la meilleure des choses qui s'y trouvaient. Un a dit « Wa ma atyabu ma fiha » Et quelle est la meilleure chose se trouvant dans cette vie d'ici-bas? Il répondit alors « Mahabbat ma'rifatullah wa mahabbatu والأنس بقربه والشوق إلى لقائه. C'est-à-dire, la meilleure chose se trouvant dans cette vie d'ici-bas, c'est le fait de pouvoir connaître Allah, de l'aimer, de se sentir proche de lui, et l'envie ardente de le rencontrer. Et le fait d'aller à la Kaaba, tourner autour d'elle, et accomplir ce tawaf, développe en toi plusieurs sens parmi lesquels justement l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah ne s'est attribué cette maison que pour l'honorer lorsqu'il a dit à Ibrahim alayhi salam, وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ et purifie ma demeure pour ceux qui accomplissent le tawaf. Tu te rappelles que tu es dans un endroit qui a été purifié par Allah subhanahu wa ta'ala par le biais de son prophète Ibrahim alayhi salam. Et Allah a ordonné que cette demeure soit purifiée pour toi, pour que tu viennes y accomplir le tawaf, pour que tu viennes pleinement recueilli. Ainsi, le fait qu'Allah s'attribue cette maison, nous dit l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, c'est ça qui a fait que les cœurs des croyants dans le monde convergent vers la Kaaba et se dirigent tous vers elle. Allahu Akbar. Et l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala est l'une des adorations les plus spécifiques qui soient pour le croyant. Car en réalité, le croyant est né avec l'amour d'Allah dans le cœur. Cet amour augmente quand le croyant augmente en bonne action et diminue quand le croyant diminue en bonne action. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Kullu mauloudin yuladu ala al-fitra fa abawahu yuhawwidani aw yunassirani aw yumajjisani » Le hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Chaque enfant venant au monde est dans la prime nature, dans la nature saine, al-fitra. Et ce sont ses parents qui, par la suite, en font un juif, un chrétien ou un masdéen. C'est-à-dire que, à la base, l'enfant qui naît est dans la nature saine qui est l'islam. Et selon l'environnement qui l'entoure, il va soit se développer dans cette nature saine, à condition qu'il soit éduqué dans cet islam sur lequel il est prédisposé, ou alors son environnement va affecter sur lui et il deviendra ce qui correspondra à cet environnement. Peu importe la religion dont il s'agit, ce sont des exemples qui ont été cités par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce récit. Et donc le fait de venir à la Kaaba augmente ton amour d'Allah Azza wa Jal. Deuxième sagesse, deuxième secret derrière le tawaf, secret ou sagesse spirituelle. Le tawaf fait bouger le cœur du croyant qui accomplit le pèlerinage. Il reconnaît la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Il regarde devant lui. Il regarde derrière lui. Il regarde à sa droite. Il regarde à sa gauche. Il ne voit que des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes. Certains sont en fauteuil roulant. D'autres marchent. D'autres sont assistés et ainsi de suite. Tous ces gens-là, venus s'humilier, venu s'avilir devant le Seigneur des cieux et de la terre. Ce qui fait naître dans le cœur du croyant la reconnaissance de la grandeur du Seigneur subhanahu wa ta'ala pour plusieurs choses, pour ses bienfaits, pour sa beauté, pour sa perfection. Et cela développe cette foi qu'il a déjà dans le cœur. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit « Wahua mashhadu dhulli walinkisar walkhudu'i waliftiqari lirrabbi jalla jalaluh. وهذه الحال التي تحصل لقلبه لا تنال العبارة حقيقتها. Il nous dit que l'état dans lequel est le cœur du croyant qui se fragmente devant Allah, qui s'avilit devant sa grandeur, la grandeur de son Seigneur, est quelque chose que l'expression ne peut même pas décrire. On ne peut même pas décrire. C'est pour ça qu'il fut dit à certains savants, Ayasjudul qalb, est-ce que le cœur se prosterne? Il répondit, Qala na'am, sajdatan, la yarfa'u ra'sahu minha ila yawm al-liqa, fahadha sujudul qalb. Est-ce que le cœur se prosterne? Il répondit, oui. Le cœur fait une prosternation dans laquelle il ne lève plus sa tête jusqu'au jour de la rencontre d'Allah. C'est ça la prosternation du cœur. Ce qui te montre encore une fois que les savants savaient que en réalité les adorations physiques doivent être avant tout des adorations spirituelles, des actes du cœur. Lorsque tu te prosternes en prière, c'est ton cœur qui se prosterne. Lorsque tu tournes autour de la Kaaba, c'est ton cœur qui tourne autour de la Kaaba. Troisième sagesse, se cachant derrière le tawaf, cette action fait ressentir au pèlerin qu'il est proche de son Seigneur. Il espère donc en lui et se fait une bonne opinion d'Allah. Il se dit qu'Allah va m'exaucer. Allah va me répondre, subhanahu wa ta'ala, tous ces besoins que tu as. Les gens autour de toi qui sont malades et qui te sont chers, les difficultés, que ce soit financières, sociales ou autres, toutes ces choses-là, présente-les à Allah lorsque tu tournes autour de la Kaaba. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, nous enseigne que ces actions n'ont été prescrites que pour l'évocation d'Allah, que pour le rappel du nom d'Allah. Il nous dit, alayhi salatu wassalam, إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. On a prescrit le tawaf, les va-et-vient entre les deux monts al-Safa et al-Marwa, la lapidation des stèles, que pour l'évocation d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Donc le pèlerin qui accomplit le tawaf doit comprendre qu'il est dans une adoration importante. Ainsi, il doit prendre soin du comportement, des règles de bienséance à respecter pendant ce tawaf. Il ne convient pas, par exemple, que tu tournes autour de la Kaaba en train de discuter de choses futiles. Car tu perdras non seulement ton temps, mais tu feras perdre le temps de ton interlocuteur qui t'écoute, alors que chaque minute autour de la Kaaba est précieuse. Et il est triste de constater que beaucoup de gens perdent beaucoup de temps lorsqu'ils tournent autour de la Kaaba, car préoccupés par autre chose. Je me souviens d'une fois où nous étions justement là-bas. Et il y avait un pèlerin avec qui nous étions en train de faire les rites, qui était distrait par la grande tour qui se situe à proximité de la Kaaba, au-dessus de laquelle il y a la plus grande horloge du monde, comme on dit. Et il était en train d'observer cet édifice, cette construction qu'il était en train d'admirer, en me disant « Regarde, combien est belle cette tour, ou combien est grande, je ne me souviens plus exactement. » Je l'ai tiré et je lui ai dit « Occupe-toi du rappel d'Allah. Occupe-toi de ton adoration. » Et subhanallah, après avoir réfléchi, il m'a dit « Vraiment, tu as raison. » Et il s'est remis dans le bain de l'adoration. Ce n'est juste qu'un exemple que je vous cite ici pour vous dire de ne pas vous laisser faire. Ash-shaytan ne vous lâchera pas, surtout dans le tawaf. Il va tout faire pour que vous soyez distrait. Car un cœur distrait est égal à une invocation distraite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne qu'Allah ne répond pas à l'invocation de quelqu'un dont le cœur est distrait, insouciant. Faites donc attention à cela, vous qui avez pour intention de vous rendre au pèlerinage et d'accomplir le tawaf. Parmi les comportements à respecter pendant le tawaf et parmi les actes susceptibles de souiller le cœur et de l'en priver de la spiritualité, c'est le fait de ne pas baisser le regard, le fait de regarder le sexe opposé pendant le tawaf, ce qui est grave. Vous êtes autour de la Kaaba, vous êtes dans la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous avez été favorisé, choisi, tout vous a été facilité, tout vous a été mis à disposition. Vous n'êtes pas là pour désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Prenez donc garde, que ce soit les hommes regardant les femmes ou les femmes regardant les hommes également. Mais concentrez-vous sur l'adoration de votre Seigneur, car proportionnellement à la distraction de votre cœur pendant le tawaf, tout ce dont on vient de parler sera également faible. L'amour pour Allah, l'humilité devant lui, l'espoir en lui. L'imam Ibn al-Jawzi, rahimahullah ta'ala, a dit « I'lam anna radd al-basari anil haram wajib » Sache que baisser le regard en t'abstenant de voir l'interdit est un devoir. Puis il a parlé un peu de plusieurs choses mauvaises qui découlent du fait de regarder. Et, subhanallah, beaucoup de gens se sont retrouvés avec des péchés énormes au tawaf, parce qu'ils ont été tentés par le regard. Faites attention, prenez soin de vos cœurs et de votre corps. Après avoir parlé du tawaf, parlons plus particulièrement de la pierre noire. La pierre noire qui se situe au niveau de la Kaaba et qui est une pierre que le pèlerin essaie de toucher quand il le peut. S'il ne le peut pas, alors il ne doit pas s'efforcer de la toucher. Et il pourra de loin lever la main droite en direction de la pierre noire, dire Bismillah, Allahu Akbar et commencer le tawaf. Donc, cette pierre noire est bien particulière parce que déjà, elle est le point de départ du tawaf. Elle est le repère et le signe marquant le début du tawaf. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par l'imam Ahmad, et authentifié par l'imam al-Albani, rahimahullah ta'ala, nous dit « Al-hajarul aswadu min al-jannah » La pierre noire vient du paradis. Et on apprend aussi qu'autrefois, cette pierre n'était pas noire. Et d'ailleurs, c'est la seule chose qui est du paradis présente sur terre. Elle n'était pas noire. Elle était blanche. Mais depuis les temps, tous les pèlerins qui sont venus se rendre à la Mecque l'ont touché et se sont donc lavés de leurs péchés en la salissant. Elle est alors devenue noire. Allahu Akbar. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit en parlant de cette pierre noire dans le hadith rapporté par l'imam al-Tirmidhi et autres et authentifié par l'imam al-Albani rahimahullah « La ya'tiyanna hadha al-hajara » هذا الحجر يوم القيامة وله عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من يستلمه بحق. Regardez, ou plutôt écoutez. Cette pierre-là viendra très certainement le jour de la résurrection, en ayant deux yeux par lesquels elle verra, une langue par laquelle elle s'exprimera, et elle témoignera en la faveur de ceux qui sont venus la toucher en toute vérité. Subhanallah. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le hadith rapporté par Ibn Khuzaima et authentifié par l'imam al-Albani, rahimahullah, « Inna mas'ha al-hajar al-aswad wa al-rukni al-yamani yahuttani al-khataya hatta » Allahu Akbar. Allahu Akbar. Toucher la pierre noire et le coin yéménite dépose complètement les péchés, c'est-à-dire décharge la personne de ses péchés, complètement. Ça, c'est dans le cas où on peut le faire. Mais vous devez savoir qu'en réalité, dans cette époque-là, et avec la grande affluence connue pour le pèlerinage des millions de personnes, c'est pratiquement impossible de le faire. Mais, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que par la bonne intention, Allah nous accorde la récompense, inshallah ta'ala. Et d'ailleurs, il faut savoir que ces actions sont recommandées. Mais le fait de respecter tes co-religionnaires, tes frères, tes sœurs en islam, est un devoir. On ne fait pas passer quelque chose de recommandé devant un devoir, une obligation. C'est un manque de compréhension que d'agir ainsi. Ainsi, si aller toucher la pierre noire va me faire causer du tort à mes frères qui sont à ma droite et à ma gauche, je ne dois pas le faire. Je me contente de lever la main et de dire Allahu Akbar. Le prophète alayhi salatu wassalam a certes embrassé la pierre noire, il l'a touchée et ses yeux se sont inondés de larmes, comme nous le décrit Jabir radiyallahu ta'ala an. Et il faut savoir que derrière cela, il y a des sens pour les cœurs, derrière la notion de la pierre noire. Premièrement, la pierre noire vient du paradis comme nous l'avons dit. Il n'y a rien sur terre qui soit du paradis excepté cette pierre noire. Cette pierre noire nous rappelle donc la demeure tant espérée et recherchée et qui nous manque tant, nous autres les croyants, qu'est le paradis. Qu'Allah nous l'accorde. Allahumma nas'aluka al-jannata ya arhamar rahimin. Celui qui accomplit le pèlerinage et qui voit la pierre noire se rappelle d'où elle vient et c'est la destination recherchée. Deuxièmement, le fait d'embrasser la pierre noire te montre que, en tant que musulman, il t'est demandé soumission aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas jusqu'à cet endroit pour toucher une pierre. Pourquoi? Pour suivre le prophète alayhi salatu wassalam. La soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, on ne doit pas forcément en connaître la sagesse. Quand Allah nous donne un ordre, il arrive qu'il nous informe de la sagesse de cet ordre, de la raison de ce devoir ou de cet interdit, tout comme il arrive qu'il se contente de nous donner un ordre ou un interdit sans nous informer de la sagesse. Nous devons savoir qu'en tant que croyants, nous sommes éprouvés par des devoirs et des interdits, dont la conclusion est le paradis. Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala an est venu et a embrassé cette pierre noire. Puis il lui a dit: Inni a'lamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa'. Je sais très bien que tu es une pierre ne nuisant en rien, ne profitant en rien. ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. Et si je n'avais pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'embrasser, je ne t'aurais pas embrassé. Omar radiallahu anhu est un savant, il connaît Allah, Azza wa Jal. Et il est un excellent enseignant. Il enseigne aux gens la sagesse de l'obéissance à Allah, Azza wa Jal. Le prophète a fait, alayhi salatu wa salam, c'est pourquoi je fais. Je ne me pose pas la question de me demander pourquoi je dois venir jusqu'ici embrasser une pierre. Je le fais parce que le prophète l'a fait, alayhi salatu wa salam. Et en même temps, quelqu'un pourrait se dire, si j'embrasse cette pierre, c'est qu'elle contient une nuisance. Ou il est possible que cette pierre m'apporte profit, subsistance. Et ainsi de suite, il a voulu couper court cette croyance et a dit « Tu n'es qu'une pierre, tu ne peux m'apporter aucune nuisance, aucun profit, je t'embrasse parce que le prophète t'a embrassé, alayhi salat wa salam. » Ce qui te montre que si la pierre la plus importante présente sur terre et venant du paradis qu'est la pierre noire, ne peut rien t'apporter, ça te montre l'erreur dans laquelle sont tous ces gens qui se frottent à des endroits, à des murs, à des pierres, à des mausolées, et j'en passe, en recherchant la bénédiction d'Allah, ou alors en recherchant directement la bénédiction d'un être enterré dans ce mausolée. Tu vois combien sont graves ces actions. Si on ne peut pas le faire avec la pierre noire, comment pourrait-on le faire avec autre chose? Alhamdulillah. Autre chose encore, à travers la pierre noire, on a une autre sagesse. Le suivi du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, comme nous l'a enseigné Omar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala an. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a embrassé, il a touché cette pierre noire. Et il a touché aussi le coin yéménite. On l'appelle le coin yéménite car c'est le coin de la Kaaba qui part en direction du Yémen. Quand il est possible de le toucher, d'ailleurs quand vous faites le tawaf, vous le voyez car il est découvert. Le rideau qui couvre la Kaaba est coupé à cet endroit-là pour que le coin yéménite puisse apparaître et donc être touché par le pèlerin accomplissant le tawaf. Donc voici les endroits à toucher dans la Kaaba. La pierre noire, le coin yéménite, et il y a un autre point aussi, qui est l'endroit qui sépare la pierre noire et la porte de la Kaaba. On l'appelle Al-Multazam. Dans cet endroit-là, il est permis de coller son corps sur le mur et de demander à Allah de l'invoquer en formulant tous tes souhaits. C'est rapporté par des pieux prédécesseurs et c'est authentique, incha'Allah ta'ala. Point suivant, incha'Allah ta'ala, après avoir parlé du tawaf et de la pierre noire. Le maqam Ibrahim, alayhi salam. Le maqam Ibrahim, ce fameux endroit sur lequel s'est tenu debout Ibrahim, alayhi salam, qui était aidé de son fils Ismaïl qui lui faisait passer les briques pour élever les murs de la Kaaba en la construisant. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Inna awwala baytin wudi'a linnasi lalladhi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim » Dans le sens rapproché du verset, la première maison édifiée pour les gens est celle située à la Mecque, qui est bénie. Elle est une guidée pour les mondes et il s'y trouve différents signes parmi lesquels le maqam de Ibrahim. Également Allah subhanahu wa ta'ala dit وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى et prenez le maqam Ibrahim comme lieu de prière. Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma nous dit استلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركن فرمل ثلاثا ومشى أربعة ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فجعل المقام بينه وبين البيت فصلى ركعتين. Le prophète عليه الصلاة والسلام a touché la pierre noire. Puis, il s'est mis à faire la circumambulation, à tourner autour de la Kaaba. Il a précipité le pas dans les trois premiers tours. Puis il a marché à une allure normale dans les quatre tours suivants, ce qui fait sept. Et donc c'est la sunna de faire les trois premiers tours en se précipitant. Mais ça, on en parle dans les cours sur la jurisprudence du Hajj, ce qui n'est pas l'objectif de ces assises-là. Là, on parle du côté spirituel. Jabir dit, puis, après avoir tourné autour de la Kaaba, il s'est approché du maqam et a récité le verset « وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّ » et prenez le maqam Ibrahim comme lieu de prière. Il a donc pris le maqam Ibrahim entre lui et la Kaaba et il a prié deux unités de prière de rak'a. Le maqam Ibrahim, donc c'est l'endroit où Ibrahim s'est tenu debout, et l'imam Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, nous enseigne que pendant de longues années, les gens pouvaient facilement apercevoir les traces des pieds de Ibrahim alayhi salam, mais ces traces se sont effacées par la suite, contrairement à ce que beaucoup peuvent penser aujourd'hui que on peut encore voir les traces des pieds de Ibrahim. On ne les voit plus. Et ensuite, le maqam a été déplacé. Il a été éloigné. Aujourd'hui, il a été recouvert notamment de vitres en verre. Et vous voyez que les gens vont jusqu'à là-bas frotter leurs vêtements, faire des choses qui ne sont pas légiférées, qui relèvent de l'innovation et qui nuisent à leur tawaf et à leur adoration du pèlerinage. Le maqam Ibrahim alayhi salam faisant partie des signes évoqués par Allah dans le verset est quelque chose qui renferme encore des sagesses spirituelles. Première chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme Allah lui a ordonné, a pris cet endroit comme lieu de prière. Et il n'a rien ajouté à cela. Il ne l'a pas embrassé. Il ne s'est pas frotté à lui. Il n'a pas recherché de la bénédiction, comme le font beaucoup de gens. Toutes ces actions relèvent de l'innovation. Elles sont rejetées par Allah. Si vous aimez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô musulmans, contentez-vous de sa sunna et de sa guidée. Suivez-le. Faites comme lui. Lui qui, après avoir accompli son pèlerinage, a dit « Khudu anni manasikakum »« Prenez de moi vos rites. » L'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, a dit « Hatta maqam Ibrahim, alladhi bi makkata la yuqabbalu wa la yumsah, fa kayfa bima siwahu min al maqamati wal mashahid » Même le maqam Ibrahim se situant à la Mecque, on ne l'embrasse pas, on ne l'essuie pas, on ne se frotte pas sur lui. Que dire alors d'autre que ce maqam? Deuxième sagesse que l'on retrouve derrière le maqam Ibrahim alayhi salam, le rappel du prophète Ibrahim alayhi salam, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a exaucé son invocation. Ibrahim alayhi salam a invoqué Allah et a demandé à Allah « Waj'alli lisana sidqin fil akhirin » Waj'alli lisana sidqin fil akhirin, c'est-à-dire qu'il est en train de demander à Allah subhanahu wa ta'ala que les gens parlent en bien de lui après son décès. Et ça, ce n'est pas un mal en soi. Contrairement à ce que l'on pourrait croire. Certains pourraient croire que le fait d'aimer que les gens parlent en toi de bien est un mal en soi. Non, ce n'est pas ça qui est un mal. Ce qui est un mal, c'est d'œuvrer pour un autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est un mal. Mais si tu es sincère envers Allah, subhanahu wa ta'ala, alors chaque croyant humble voudrait avoir un minimum de bonne réputation. C'est tout à fait correct, il n'y a aucun mal dans cela. C'est ce qu'a demandé Ibrahim, alayhi salam, à Allah, subhanahu wa ta'ala, وَجْعَلِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. Et Allah subhanahu wa ta'ala a répondu à cette demande favorablement en l'exauçant. Si bien qu'aujourd'hui, nous autres sommes en train de parler d'Ibrahim alayhi salam en bien. Lorsque tu es devant le maqam d'Ibrahim, tu te souviens de cela. Tu passes devant le maqam d'Ibrahim, toi le pèlerin, et tu te souviens du prophète d'Allah, Ibrahim alayhi salam. Tu te souviens de ce qu'il a fait, des efforts fournis par le prophète Ibrahim alayhi salam, pardon. Tu te souviens qu'il a appelé les gens à l'unicité d'Allah, qu'il a cassé les idoles, et qu'il a tout fait pour que les gens adorent Allah seul et sans associé. Tu te souviens combien il a été endurant dans les épreuves auxquelles il a été amené à faire face. Tu te souviens de la soumission d'Ibrahim alayhi salam qui a été jusqu'à accepter de sacrifier son fils Ismaïl alayhi salam. Tu te souviens, bien qu'il ne l'ait pas fait, bien entendu. Tu te souviens également du jour où il a élevé les briques lors de la construction de la Kaaba. Tu te souviens qu'Ibrahim alayhi salam huwa Khalilur Rahman, qu'il est très proche et très aimé d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Tu te souviens qu'Ibrahim alayhi salam, à lui tout seul, était l'égal d'une communauté entière. Allah azza wa jal a dit, inna Ibrahim kana umma. Ibrahim était une communauté. Et tu te souviens qu'Allah a dit de lui qu'il allait en faire un modèle, un guide pour les gens. Inni ja'iluka linnasi imama. Je ferai de toi pour les gens un imam, un guide, modèle à suivre. Allahu Akbar. Tu te souviens de tout cela. Tu te rappelles ton prophète Ibrahim alayhi salam, de son endurance, de sa religiosité, de sa force, de sa conviction. Et alors, tu te dis que toi aussi, tu dois patienter face aux épreuves d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Tu dois patienter en accomplissant les ordres d'Allah, azza wa jal, et en t'abstenant de sa désobéissance et des péchés. Tout cela, tu en tires profit lorsque tu passes devant le maqam de Ibrahim. Après cela, il y a un autre point très intéressant également. C'est la prière derrière le maqam Ibrahim alayhi salam. Il t'est demandé, après avoir accompli le tawaf, de prier deux rak'ah derrière le maqam Ibrahim alayhi salam. Si il est possible de le faire. En ce moment, ce n'est plus possible en vérité de le faire. Maintenant, tu feras deux rak'ah là où tu trouveras de la place tout simplement. Vous allez voir des gens qui veulent vraiment prier derrière le maqam. Ils vont jusqu'à se mettre en danger et mettre en danger les autres. Tu les vois dans le tawaf, au milieu d'une foule très grande, prier deux rak'ah. Mais dans quel état est-ce que tu peux prier deux rak'ah alors que tu sais que tu es en danger, tu risques de te faire écraser? Est-ce que c'est ça qu'Allah veut de toi? Ce n'est pas la sunna. La sunna, à ce moment-là, c'est que tu t'écartes et que tu ailles prier dans un endroit digne qui te permet d'être recueilli, de prier avec humilité. Donc, lorsque tu pries derrière le maqam Ibrahim, après avoir accompli le tawaf, donc tu récites d'abord le verset « وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى » et faites du maqam Ibrahim un lieu de prière. Puis tu vas là-bas et tu accomplis deux rak'ah. Dans ces deux rak'ah, il y a des sourates spécifiques à réciter. Dans la première, tu récites Suratul Kafirun après la Fatiha, bien entendu. Et dans la deuxième, tu récites Suratul Ikhlas après la Fatiha. Ceci car le prophète alayhi salat wa salam a agi ainsi. Et subhanallah, ce n'est pas pour rien que ces deux chapitres du Coran ont été choisis pour qu'ils soient récités dans les deux rak'ahs après le tawaf. Car si tu médites le sens de ces deux sourates, tu te rendras compte qu'elles expriment le tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ. Dans cette sourate, tu te désavoues du polythéisme, de la mécréance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ, tu reconnais l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est exactement le principe de la parole La ilaha illallah, se composant de deux piliers, le premier étant la négation et le second l'affirmation. La négation, La ilaha, nulle divinité ne mérite réellement l'adoration. On a nié le droit à l'adoration pour toute divinité possible. Puis on a affirmé le droit à l'adoration à une divinité seulement, illallah, sauf Allah. Eh bien, dans Suratul Kafirun, c'est exactement le sens de la ilaha. Et dans Suratul Ikhlas, qul huwallahu ahad, c'est exactement le sens de illallah que l'on retrouve. Ainsi, ces deux rak'ahs que tu pries après le tawaf sont une mise en application concrète du sens de la parole La ilaha illallah. Ces deux rak'ahs servent donc à nourrir ton cœur de tawhid, d'unicité d'Allah, de foi en Allah, le seul, l'unique, sans associer subhanahu wa tabaraka wa ta'ala wallahu akbar. Allahu akbar. Le pèlerinage, s'il est accompli comme il se doit, chaque instant est pour le pèlerin une saveur extrême. Pour rien au monde, il ne voudrait l'échanger. Wallah, et si on lui proposait tout ce bas monde et ce qu'il contient, en l'échange d'un ressenti que son cœur savoure lors du pèlerinage, pour rien au monde il n'accepterait cela. À condition, je répète à condition, que ce soit un réel pèlerinage, un pèlerinage du cœur. C'est pour cette raison que j'ai voulu donner cette série d'interventions, car comme je vous l'avais dit lors d'une précédente assise, après toutes ces années, ولله الحمد والمنة وحده لا شريك له الكريم المنان الوهاب المعطي سبحانه وتعالى. Après toutes ces années, le pèlerinage de Umra, le constat est que beaucoup de gens ne savent pas tirer profit de leur pèlerinage. Il est très important que tu prépares ton cœur, cher pèlerin, chère pèlerine, avant même de préparer ton corps ou ta logistique. C'est très important. Dans ces deux rak'ahs, tu pries humblement, recueilli, tu es juste à proximité de la Kaaba. Et le prophète alayhi salat wa salam a dit أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدُ. Le moment où le serviteur est le plus proche de son Seigneur est quand il est prosterné. Tu seras donc, écoute bien, si Allah te facilite le pèlerinage, tu seras donc dans la situation qui te rapprochera le plus d'Allah, la prosternation, dans l'endroit préféré d'Allah, Al-Ka'ba, la Mecque, pendant les jours préférés d'Allah, subhanahu wa ta'ala, les jours du Hajj, en train de faire une des actions les plus méritoires qui soient, le pèlerinage. Tu auras réuni toutes les conditions, bi-idhnillah, pour présenter tes demandes à Allah subhanahu wa ta'ala. Demande-lui donc de t'accepter. Et sache que ce n'est pas suffisant d'avoir fourni tous ces efforts pour te garantir l'acceptation, loin de là. Ibrahim alayhi salam, qui a bâti la Kaaba avec son fils Ismaïl alayhi salam, est un prophète. Son fils est également un prophète. Ils ont reçu l'ordre d'Allah de bâtir la Kaaba. Ils se sont exécutés. Alors qu'ils tournent autour de la Kaaba, vous savez ce que dit Ibrahim alayhi salam? Rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul 'alim. Ô Seigneur, accepte cela de nous. Tu es certes audient, omniscient. Les savants disent, subhanallah, Allah lui donne l'ordre de la bâtir, il s'exécute et il demande à Allah de lui accepter. Personne ne doit se sentir à l'abri de voir ses actions rejetées. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin. Allah n'accepte que les actions des pieux. C'est pour ça qu'il est important de préparer ton cœur. Le pèlerinage n'est pas une mince affaire. Le pèlerinage est extrêmement important. L'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit: "Fad-da'i was-sajidu yuwajjihu ruhahu ila Allah. War-ruhu laha 'urujun yunasibuha. Fataqrubu min Allah bila rayb bihasabi takhallusiha min ash-shawa'ib." فيكون الله عز وجل منها قريبا قربا يلزم من قربها. Ibn Taymiyyah rahimahullah, grand savant de l'islam, nous dit: celui qui invoque Allah et qui est en prosternation dirige son âme vers Allah. Il se rapproche sans nul doute d'Allah subhanahu wa ta'ala. Proportionnellement au fait qu'il se débarrasse des souillures s'interposant entre son cœur et Allah, subhanahu wa ta'ala. Plus tu es concentré, plus tu es humble, plus tu pries et te prosternes avec humilité, plus tu te rapprocheras d'Allah, subhanahu wa ta'ala, jusqu'à ce qu'Allah soit proche de toi. C'est quand même grand. C'est quand même grand comme parole que d'entendre tout ça. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la réussite. Et ainsi, nous avons terminé avec le maqam Ibrahim et nous passons à un autre point, as-sa'yu bayna as-safa wal-marwa, et nous nous arrêterons sur celui-ci, inshallah ta'ala, pour aujourd'hui. Parmi les rites également, l'action de faire les va-et-vient entre les deux monts, as-safa et al-marwa. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: inna as-safa wal marwata min sha'a'irillah. Faman hajja al-bayta aw i'tamara fala junaha 'alayhi an yattawwafa bihima. Dans le sens du verset, certes, as-safa et al-marwa font partie des emblèmes d'Allah. Ainsi, quiconque accomplit le pèlerinage de cette maison ou la umra, nul grief à ce qu'il fasse les va-et-vient entre les deux. Ce verset a été révélé après que les compagnons se soient interrogés s'ils devaient faire les va-et-vient entre Safa et Marwa ou non lors de l'accomplissement de la Umra ou du pèlerinage, car il était connu que les polythéistes l'accomplissaient aussi par peur de leur ressembler ou de faire quelque chose qui leur soit particulier. Ils ont interrogé le prophète alayhi salatu wassalam et Allah azza wa jal lui a révélé cette réponse. Bien évidemment, le fait de faire les va-et-vient entre Safa et Marwa fait partie des rites qui sont des emblèmes d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il fallait faire le va-et-vient entre eux. الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى دين يخبر تعالى أن الصفا والمروة وهما معروفان من شعائر الله أي أعلامه أعلام دينه الظاهرة التي تعبد الله بها عبادة وإذا كان من شعائر الله فقد أمر الله بتعظيم شعائره، فقال: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فدل مجموع النصين أنهما من شعائر الله، وأن تعظيم شعائر الله من تقوى القلوب. Dans le sens de la parole de l'imam al-Sa'di rahimahullah, Allah nous informe que les monts As-Safa et Al-Marwa, qui sont connus, sont des emblèmes d'Allah, c'est-à-dire des emblèmes apparents par lesquels on adore Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'ils sont des emblèmes d'Allah, alors ils doivent être considérés comme tels. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens du verset: et quiconque reconnaît la grandeur des emblèmes d'Allah, alors cela revient à la piété des cœurs. Il y a également des sagesses, comme c'est le cas pour toutes les autres choses, derrière les va-et-vient entre Safa et le Marwa. Premièrement, les va-et-vient entre Safa et le Marwa sont une adoration par laquelle tu suis le prophète Mohammed alayhi salat wa salam et fait également partie de cela le fait de savoir que les rites également enseignés par le prophète Ibrahim, alayhi salam, contenaient As-Safa et Al-Marwa. En fait, que s'est-il passé là-bas? Lorsque le prophète Ibrahim alayhi salam a reçu l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala de laisser à Mecca sa femme Hajar et son fils en bas âge, Ismaïl, qui était alors bébé, alayhi salam, et de s'en aller, Hajar s'est inquiété pour son fils, qui demandait de quoi se nourrir. Et elle faisait des va-et-vient justement en courant entre ces deux monts qui à l'époque bien sûr étaient élevés. Et elle courait à la recherche d'aide. Et c'est là qu'Allah subhanahu wa ta'ala va lui envoyer Jibril alayhi salam, qui va frapper la terre et de là va jaillir l'eau de Zamzam. Quand elle va voir l'eau arriver, elle va dire Zam, Zam, qui veut dire reste, reste, comme si elle demandait à l'eau de rester. C'est pour ça qu'on l'appelle Zamzam d'ailleurs. Et donc, dans les va-et-vient entre Safa et le Marwa, on se souvient de ça. On se souvient que Hajar courait à la recherche de la subsistance. C'est pour ça que le cheikh Mohammed ibn Ibrahim, rahimahullah ta'ala, le cheikh, un grand savant, a dit: يندب لصاحب النسك أن يستشعر حال هاجر ليس معها إلا طفلها فإن ذلك فيه داع للخشية. Regardez les savants, comment ils s'intéressent aux sagesses des adorations. Il est recommandé, nous dit-il, pour celui qui accomplit les rites, au moment d'être entre Safa et Marwa, de se souvenir de la situation de Hajar, qui n'avait à cette époque-là que son fils, car cela est plus à même d'amener en toi l'humilité et la quiétude. Toi, quand tu vas faire le va-et-vient entre Safa et le Marwa, tu vas voir énormément de monde, tu vas trouver du zamzam, de l'eau partout, tu ne manqueras de rien. Mais elle, elle était dans une terre désertique, et elle courait dans cet endroit, peut-être sous la chaleur, Allah est plus savant, à la recherche de quelque chose ou de quelqu'un. Et ça, ça va t'amener à te concentrer également dans tes va-et-vient entre Safa et Al-Marwa. Deuxième sagesse derrière Safa ou Al-Marwa, le fait de te rappeler d'Ibrahim, alayhi salam, et de sa soumission pleine aux ordres d'Allah, si bien qu'il y a laissé, donc à Safa et Marwa, vers cet endroit-là, son épouse et son enfant, qui allaitait encore, Ismaïl alayhi salam, dans une terre désertique, dans laquelle il n'y avait ni verdure, ni rien, pas de compagnie, pas de boisson, pas de nourriture, rien de tout cela. Toi, aujourd'hui, tu viens là-bas avec tes provisions, avec ta nourriture. Elle, Hajar, a dit à son fils, a dit à son mari Ibrahim, « Ah, Allahu amaraka bidhak, est-ce Allah qui t'a ordonné de nous laisser ici ?» Qala na'am, Ibrahim alayhi salam lui a répondu « Oui » et Hajar lui a dit « Alors Allah ne nous laissera pas. » Wallahi, dans l'histoire du prophète Ibrahim alayhi salam, tu vois une école de soumission. Il doit laisser sa femme avec son fils alors qu'il est âgé, il n'a pas eu d'enfant pendant tant d'années. Ensuite, il doit sacrifier son fils. Plein de sacrifices qu'il doit faire qu'il n'a pas hésité dès lors que c'était pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Donc le va-et-vient entre Safa et Marwa te rappelle tout ça. Également parmi les sagesses, il y a le fait de te rappeler l'importance de tawakkul ala Allah azza wa jal, de la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. En quoi est-ce que le Safa et le Marwa me rappellent l'importance du tawakkul? La réponse, si tu te souviens de ce pourquoi tu es là, c'est pour prendre exemple de Hajar, de Ibrahim alayhi salam, tu te souviens de l'importance du tawakkul, parce que eux, ils étaient seuls, ils n'avaient rien là-bas. C'est pour ça que Hajar a dit à Ibrahim, quand celui-ci lui a dit, c'est Allah qui m'a ordonné de te laisser ici, elle lui a dit, idhan, la yudayi'una. Donc, Allah ne nous le perdra pas. Alors qu'elle est dans le désert et qu'il n'y a personne. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans le désert, nous sommes entourés, nous avons de quoi boire, de quoi manger, mais nous sommes en constant manque de tawakkul à Allah, qu'Allah nous guide. Subhanahu wa ta'ala. Également, parmi les sagesses du Sa'i, les va-et-vient entre Safa et le Marwa, le fait de se rappeler de notre mère Hajar, alayha salam, la femme du prophète Ibrahim, alayhi salam, aidée de la délivrance qu'Allah apporte à son serviteur après les épreuves. Allah t'éprouve, mais il finit toujours par te délivrer. Bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Et ça, tu peux te le rappeler lors des va-et-vient entre As-Safa et Al-Marwa. Je m'arrête ici, inshallah ta'ala, pour aujourd'hui. À partir de demain, inshallah ta'ala, on traitera des actions du Hajj, notamment le jour de Tarwiyah, le 8e jour, qui est le premier jour du pèlerinage. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa barakallahu fikum.